Et à la fin de Genèse 5, c'est comme si on tire le frein à main. D'accord? L'auteur, il fait maintenant un long zoom sur Noé et sur sa descendance, sur ce qui lui arrive, l'histoire du déluge. Épisode historique, donc. C'est un peu comme dans les BD d'Astérix. Vous connaissez? En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et puis alors après, vous tournez la page, et puis on arrive dans le village, et on rentre dans l'histoire, d'accord, de l'épisode de la BD que vous êtes en train de lire. Donc la grande histoire, c'est toute la Gaule, puis non, et puis ça s'arrête. Et Goscinny et Sempé, hein, je crois que c'est eux les auteurs, nous font découvrir une aventure d'Astérix et Obélix. Ok, là c'est une BD. Ok, vous êtes toujours avec moi, mais ici on parle d'un événement qui est réel, historique. Merci. Et c'est quand même un même mouvement similaire que nous oblige à faire l'auteur du Pentateuque, d'accord? Il avait déjà arrêté notre attention sur Énoch, mais passé assez rapidement. Énoch marchait avec Dieu. Et un jour, il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Incroyable. Et de même, Noé marche avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et il est passé par le jugement, mais en étant protégé dans l'arche. Et voyez comment le temps ralentit au point presque de devenir du temps réel, en comparaison en tout cas avec les générations qu'on a survolées précédemment. Et l'auteur, dans notre passage ce matin, il prend le temps de nous expliquer qu'est-ce que ça signifie marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu et vivre au-delà de la mort. Alors, je vous invite à lire le texte avec moi. On est dans Genèse, donc au chapitre 6, et on va faire la lecture à partir du verset 9. Comme vous êtes habitués maintenant, vous savez qu'on commence une nouvelle section. Voici l'histoire de Noé, voici la généalogie de Noé, les générations de Noé. Donc, Genèse, chapitre 6, verset 9. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec le Seigneur, avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était pervertie aux yeux de Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de tous est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. Fais-toi une arche en bois de résineux. Tu diviseras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit au-dedans et au-dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Quant à moi, je fais venir sur la terre le déluge, les eaux, pour anéantir tous ceux qui ont souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De toutes les sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour qu'ils restent en vie avec toi, un mâle et une femelle. De chaque espèce parmi les oiseaux, le bétail et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-t'en des provisions. Cela te servira de nourriture, ainsi qu'à eux. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération devant moi, tu es juste. De toutes les bêtes pures, prends sept couples, le mâle et la femelle. Des bêtes qui ne sont pas pures, un couple, le mâle et sa femelle. Aussi des oiseaux du ciel, sept couples, mâle et femelle, afin de garder en vie leur descendance sur toute la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Prions. Seigneur, nous voulons comprendre le plus exactement possible, Seigneur, ta parole. Et nous te demandons ta grâce et ton aide pour ensuite faire exactement ce que tu nous dis ce matin. Alors, par ton esprit, viens maintenant ouvrir notre intelligence et notre cœur et diriger nos émotions, notre volonté et nos affections vers toi pour que nous fassions ce que tu nous demandes. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous avez remarqué comme le regard de Dieu, il était toujours juste et précis. Dernièrement, les enfants avaient loué un DVD à la médiathèque de Cavaillon, c'est Le Petit Nicolas. Et il y a une séquence que j'étais là, j'ai vu, à Nyon. Vous connaissez un peu Le Petit Nicolas, il y a toute une classe et ils ont chacun des rôles. Alors il y a le petit chouchou de la maîtresse, c'est Agnan. Et puis il y a Clotaire, c'est un peu celui qui arrive jamais à l'école, qui est un peu le cancre. Et alors la maîtresse habituelle les a catalogués tous les deux. C'est toujours Agnan qui a le droit d'accrocher les choses au tableau, c'est toujours Agnan qui a le droit de répondre, c'est toujours Agnan qui a le droit d'avoir des privilèges dans la classe. Et puis Clotaire, c'est toujours lui qui se retrouve au coin. C'est toujours lui qui arrive jamais à répondre. Et voilà, et puis c'est un peu comme ça. Et puis, c'est très catalogué dans deux camps, d'accord ? Et puis voilà qu'un jour, il y a une remplaçante qui arrive, parce que la maîtresse habituelle est malade, ou je ne sais plus quoi, et elle comprend rien à la situation. Elle renverse tout. Donc, elle commence à interroger les élèves, et puis d'abord, donc c'est une leçon sur la géographie, il faut situer la scène. Alors, elle demande, bon, qui c'est qui va accrocher la carte au tableau ? Et Agnan, parce que lui... Il a l'habitude qu'on demande toujours à lui, donc il se lève. Il se lève pour y aller et la remplaçante, elle se fâche. Hey, qui c'est qui t'a dit de te lever ? Oh là, on a une forte tête dans la classe. Et donc lui, il est complètement choqué, donc il retourne tout gentiment s'asseoir à sa place. Et puis elle regarde, et puis elle voit le fameux Clotaire, elle dit, tiens, vous avez l'air moins dissipé que les autres, venez. Il ne croit pas ses oreilles. Ouais, moi, j'ai le privilège de venir accrocher la carte au tableau. Et puis donc... Et ça. Puis elle interroge les élèves, et puis ils ont, sur les conseils d'Agnan, ils avaient tous bien révisé la leçon de géographie, donc ils savent tous répondre. Et puis finalement, elle se tourne vers Agnan, et elle dit, alors vous, la forte tête, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Mais tous les autres élèves, ils ont déjà répondu à tout ce qui est dans la leçon. Il n'y a rien de plus à dire. Et puis là, il bredouille, il ne sait pas quoi dire. Et puis elle dit, ah, voilà, tu vois, je savais bien, tu n'étais qu'un cancre, et il doit aller au coin. Et il ne sait même pas où c'est. Et donc, il y a le fameux Clotaire qui dit « Ah, attendez, madame, je vais l'aider parce qu'il n'a pas l'habitude. » Et il l'emmène au coin. Ok, donc, cette dame, elle renverse complètement, d'accord, les catégories. C'est un peu injuste, en réalité, dans le film, ok. Est-ce qu'il y aurait pour Noé une grosse méprise de Dieu aussi? Un catalogage un peu arbitraire? Ok, toute la population mondiale, mauvais. Et Noé, moi, lui, juste, c'est bon. Est-ce qu'il en serait de même pour Noé que dans le petit Nicolas et cette injustice de la remplaçante ? Lisons un peu le texte. Qu'est-ce que ça dit ? Il y a une perversion de toute l'humanité. Parmi toutes les générations de son temps, la terre est pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous étaient pervertis sur la terre. Tous ! Les hommes, tous ! Sont tordus maintenant. On a eu suffisamment de chapitres déjà dans Genèse pour le voir. Comme on a vu dans le chapitre 5, à la suite d'Adam, tous les hommes meurent parce que tous ont péché. Tous sont pécheurs. Et selon ce que Dieu constate, c'est que le problème, il est dans le cœur. Le cœur humain est mauvais. Verset 5 du chapitre 6. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Leur cœur qui conçoit des pensées mauvaises. Et les pensées mauvaises conduisent à des actions mauvaises, n'est-ce pas ? Donc la racine du problème, c'est le cœur. Alors comment ça se fait que Noé soit un homme juste et intègre parmi les générations de son temps ? N'a-t-il pas, lui, le même cœur ? En fait, on va voir au chapitre 9, et puisque vous, si vous étiez là en février, je crois, l'année dernière, ou en avril, vous avez déjà entendu une prédication de ma part sur Genèse 9, on va voir que le problème du cœur humain pécheur ne va pas être tout à fait résolu par le déluge, mais par un autre moyen, dont les contours continuent, en fait, de se dessiner tout doucement dans notre passage ici. Pour le moment, en tout cas, la perversion de toute l'humanité est bien réelle. La terre est pervertie, elle est corrompue, elle est tordue, trois fois endeversée dans les versets 11 et 12. Et la terre, au passage, qui signifie pas juste le sable ou la glaise, mais qui signifie dans le langage biblique tous les habitants de la terre, le monde habité. Elle est pleine de violence. Peut-être une allusion à Caïn et les mecs qui comptaient sur leur propre justice, ce qui les conduisait à la haine et à la violence contre Dieu et contre leur prochain. Et ça contraste avec la justice de Noé. Elle n'est pas de la même nature, on dirait, chez Noé. Toute la terre est corrompue. C'est-à-dire, ça revient à corrompre la manière dont Dieu a créé le monde. Un peu comme ce vol de Malaysia Airlines, détourné de sa route, de sa voie, de son objectif premier, et qui finit tragiquement dans l'océan, à l'opposé de la destination prévue au départ. Et Dieu voit ça. Et son évaluation est juste et précise. Verset 5, si vous prenez juste un peu en dehors du passage de ce matin, mais « Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre. » Verset 12, « Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. » Et vous rappelez le thème de voir et de décider si c'est bon ou mauvais est un grand thème de ces chapitres de Genèse. Quand Dieu crée le monde, ça revient à chaque étape. Il crée par une parole, ensuite la chose vient à l'existence, et Dieu voit, ou Dieu regarde, Dieu évalue, et c'est bon. Donc chapitre 1, verset 4, 10, 12, 18, 21, 25, verset 31, c'est l'apothéose. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Voilà l'évaluation de Dieu. Mais au chapitre 3, on était là aussi, en train d'observer ce qui se passe dans le jardin d'Éden, le mensonge malveillant du serpent. Il disait, Dieu vous ment. Dieu vous cache des choses. Vous n'avez pas besoin de voir les choses comme lui les voit. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous n'avez pas besoin de voir les choses comme lui les voit. Ça, c'est le mensonge du serpent. Et il ose affirmer, le jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, c'est-à-dire le jour où vous prenez en main de décider pour vous-même, indépendamment de Dieu, ce qui est bon ou mauvais, il dit, vos yeux s'ouvriront. Donc il fait miroiter la promesse d'une nouvelle vision. Et vous serez comme des dieux qui connaissent, c'est-à-dire qui évaluent ou décident ce qui est bon ou mauvais. Et le verset d'après, on voit la femme. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit le fruit. Elle dit, il a l'air bon. Elle en mange, elle en donne à son mari qui lui aussi en mange. Alors les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrent à la réalité du mal. Mais en même temps, c'est comme si le serpent venait de leur percer les yeux. Et depuis, nous sommes aveugles. Le péché, au lieu de nous avoir ouvert les yeux, nous rend aveugles spirituellement. On ne voit plus les choses comme il faudrait, comme Dieu, lui, les voit. Et on voit ça, suite de Genèse, Caïn porte un regard favorable sur lui-même et son offrande. Ce sera bien suffisant pour Dieu. Mais Dieu ne porte pas le même regard, pas un regard favorable sur Caïn, tandis qu'il le fait pour Abel. Chapitre 6, la semaine dernière, on a vu que les fils de Dieu virent, donc de nouveau le problème de voir, mais pas de la bonne manière, virent que les filles des humains étaient belles, c'est-à-dire virent qu'elles étaient bien en réalité, littéralement. Et ils agissent mal en fonction de leur vue mauvaise. Noé, lui, va être délivré du déluge, comme Enoch est délivré de la mort. Dieu délivre donc ceux qui marchent avec lui et ne corrompent pas leur conduite, qui cherchent à rectifier leur regard sur le monde, sur leur propre vie. Ils ne cherchent pas à corrompre ce pourquoi ils ont été créés par Dieu, mais ils cherchent à voir comme Dieu voit. Et le but ici n'est pas vraiment de montrer, enfin, n'est pas ultimement de montrer pourquoi Dieu a envoyé le déluge, mais plutôt de nous montrer comment il a sauvé Noé. Il a sauvé Noé. Et qu'est-ce qui distingue Noé ? Ben, il est un homme juste, voyez ça au verset 9, intègre. J'aime bien ce mot, il fait, c'est comme ça que je me le représente, il fait un avec lui-même. Il n'y a pas de double jeu, il n'y a pas d'hypocrisie, donc il fait un avec lui-même, et dans son intégrité, il est aussi intègre vis-à-vis de Dieu. Donc il y a cette proximité, il y a cet alignement avec Dieu. Ça, au milieu d'une génération corrompue qui saccage la création de Dieu, qui renverse l'ordre créationnel, qui appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, pour reprendre les termes du prophète Ésaïe, qui fait des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui fait de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Complètement renversé. Il semble bien que Noé n'est pas en train de suivre le mouvement de rébellion contre Dieu des générations de son époque, dans leur désir d'autonomie par rapport à Dieu. Mais il a cherché à vivre dans un bon rapport avec Dieu, en l'écoutant, au point de marcher avec lui. Littéralement, c'est aller et venir avec Dieu, de vaquer à ses occupations avec Dieu, si vous voulez. Dieu dit, c'est par là, et par amour, dans la confiance, Noé décide de soumettre sa volonté à la sienne et d'aller dans le sens de Dieu, de marcher avec lui, d'aller par-ci, venir par-là. Et Noé fait cela au milieu des générations de son temps. Et Moïse, juste petite un peu parenthèse ici, comme un habile écrivain, autant qu'il est porté par l'Esprit de Dieu hein, pour écrire ce qu'il écrit dans le Pentateuque, il crée le suspense. Parce qu'il y a les trois fils de Noé qui sont mentionnés, d'accord ? Donc la question c'est comment la génération issue de Noé, à la suite de Noé, va-t-elle se comporter ? Il a trois fils. Est-ce que ces trois fils seront différents de ceux d'Adam qui a eu aussi trois fils ? En tout cas, de manière distincte par rapport à la plupart des descendants d'Adam, Noé marche avec Dieu, comme Enoch, chapitre 5, versets 22 et 24. Comme Dieu qui marche dans le jardin, au chapitre 3. Quand il y avait encore la communion avec Dieu, quand il y avait encore la proximité dans la présence de Dieu, dans le lieu parfait de Dieu. Et d'ailleurs, vous remarquez, c'est la première fois depuis Genèse 4 et depuis Caïn qu'on voit Dieu s'adresser de nouveau directement à un homme. Et on est au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, et il le parle à lui précisément. Petite application pour cette première partie, d'accord ? Dieu voit tout. Il évalue tout. Et son évaluation est impartiale, elle est parfaite. Il ne fait pas de favoritisme. Dieu évalue avec justesse et précision toute notre vie. Il se réjouit chaque fois que nous sommes intègres, chaque fois que nous marchons avec lui. Et il est peiné chaque fois que nous ne le sommes pas en train de marcher avec lui. Noé, lui, il ne marche pas dans l'autonomie vis-à-vis de Dieu, d'accord ? C'est ma deuxième partie. Est-ce qu'on pourrait dire, dans un terme un peu plus technique, qu'il s'est repenti ? Il a fait demi-tour par rapport à un style de vie à l'opposé de Dieu. Et on voit sa foi en rapport avec ses œuvres, un peu comme Abel et un peu comme Caïn de nouveau. Ce n'est pas les œuvres qui produisent la foi. Mais si la foi est là, alors nécessairement cela va se voir dans notre style de vie. Et la vie de Noé est un exemple d'une manière de vivre qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est caractéristique de Noé ? Une obéissance simple aux paroles de Dieu et la confiance dans sa providence. Qu'est-ce qui caractérise Noé ? Une obéissance simple aux paroles de Dieu et la confiance dans la providence de Dieu. Le même schéma que Genèse 1, dans la création. Le même schéma, d'ailleurs, qu'on va retrouver plus tard dans Exode, au moment de la construction du tabernacle, chapitre 25 à 39. Dieu parle, d'accord ? Une action est commandée, des instructions sont données. Et la commande est exécutée, conformément à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'écart. Donc dans Genèse, Dieu évalue, c'est bon, ce qu'il fait, c'est bon. Et puis ici, Noé fait exactement ce que Dieu veut. Et ça termine par une bénédiction et une alliance. Dieu dispose pourtant de beaucoup de moyens de mettre à l'abri et de sauver. Alors pourquoi est-ce qu'il a imposé, demandé à Noé de construire une arche ? Il n'y avait pas un moyen plus simple ? Je crois que c'est un test de la foi. Dieu demande un truc fou. Construire un bateau aux dimensions impressionnantes. Une boîte étanche, une arche en bois, de 150 mètres de long, de 25 mètres de large, de 15 mètres de haut, avec une ouverture à 50 cm du haut. Et le tout, comme vous voyez dans les versets 14, ordonné, structuré, en trois étages, avec des compartiments, littéralement des nids. Donc ça devait être assez douillet apparemment. D'ailleurs, si j'ai bien lu dans un commentaire, le mot « arche » ici est parfois utilisé pour décrire un palais. Mais peu importe, okay, les spécifications techniques. On n'a pas tout le détail. Il y a un monsieur hollandais qui est en train de refaire l'arche, vous savez, en essayant de le faire à taille réelle. On peut visiter son chantier et tout. Bon, nous, on n'a pas le détail. Mais ce n'est pas le but de pouvoir reproduire une arche comme Noé. Mais c'est plutôt de nous permettre d'observer. Donc maintenant, on est observateur d'une scène, d'accord ? Observer de quelle manière Noé suit les instructions, la parole de Dieu. Et ce que nous voyons, c'est qu'il le fait de tout son cœur, de toute son âme, avec toute son énergie. Ça fait écho à quelque chose, c'est vous ? Et il le fait dans la durée. Et si nous sommes les témoins de ça, nous ne sommes pas les seuls. Les contemporains de Noé, ceux qui étaient à cette même époque, ils le voient aussi occupé à cette construction pendant peut-être 120 ans. Et ils lui demandent, mais que fais-tu là ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Alors Noé explique. Il explique la venue prochaine du jugement de Dieu et le moyen du salut de Dieu. Et nul doute qu'il a essuyé des moqueries, qu'il a eu des humiliations de ceux qui l'entouraient. Mais t'es complètement frappé, mon petit Noé. Peut-être du vandalisme sur son chantier. On essaie de retarder, de mépriser ce qu'il faisait. Noé était seul un peu, seul, contre tous, à croire fermement la parole de Dieu. Et regardez comment Dieu vient et prend l'initiative de faire alliance avec Dieu. C'est la première fois qu'on trouve ce mot « alliance » dans la Bible, même si on a vu que déjà dans Genèse 2, il y a le même concept, la même idée. Dieu fait des promesses, plus que des menaces en fait. Quand il avertit même, c'est un effet de sa bonté. Vous savez, il y a quelque chose dans la loi française qui dit « non-assistance à personne en danger ». Et c'est puni par la loi, n'est-ce pas ? Ne rien dire si vous voyez un aveugle traverser la route alors que des voitures circulent à toute vitesse, c'est le malveillant. Ce n'est pas de la bonté, ça. Imaginez combien ce serait cruel de dire à un homme avec, imaginons, deux jambes cassées, « Lève-toi, sinon je te donne un coup de poing. » Et on vient avec le bâton, on vient menacer. Kevin, voilà, je vois Paul qui réagit. Il n'y a pas non plus des promesses sans fond. « Allez, mon petit chouchou, là, si tu te lèves, je te donnerai un bonbon ou je te donnerai ceci ou cela. » Il n'y a pas une négociation de la part de Dieu. La promesse, c'est « Ne bouge pas, mon fils. J'arrive, je viens te chercher. » Là, est-ce que tu m'entends ? J'y suis presque, encore 5 mètres. Bientôt, tu vas me voir. Je suis là, j'arrive, je suis en route. Courage ! C'est ça que Dieu est en train de faire avec Noé. On lit dans Deutéronome 30, versets 2 et 3. « Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je prescris aujourd'hui, Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera, même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel. L'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Il ira te chercher jusque-là. Quelle belle promesse. Alors Dieu dit à Noé, fais-toi une arche, quant à moi. Verset 17. Dieu annonce qu'il va faire une alliance avec Noé. C'est un acte libre de sa part, dans lequel l'homme Noé n'a pas de part. Dieu l'informe de ce qu'il va faire. Il ne négocie pas avec Noé. Et s'il lui donne des instructions, c'est en conséquence qu'il veut faire cette alliance avec Noé. Et petite parenthèse ici, on ne peut pas parler donc de liberté de l'homme, surtout pas depuis la chute, puisque maintenant l'orientation du cœur humain, du cœur de pierre, pas de pierre majuscule, d'accord, un cœur de en roc, c'est de ne concevoir jamais que des pensées mauvaises. Mais toujours, il y a une responsabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, une responsabilité dans le cadre de la volonté révélée de Dieu. Ici, Dieu donne des instructions à Noé, elles sont claires. Noé est donc responsable maintenant de les mettre en pratique. Est-ce qu'il sait ce qu'est un déluge ? Est-ce qu'il, lui, a pouvoir d'agir sur les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui vont bientôt surgir ? Non, tout ça, c'est du domaine de Dieu, de la volonté, de la puissance souveraine de Dieu. Et dans un sens, c'est sa volonté secrète que nous ne connaissons qu'a posteriori. Donc Dieu fait une alliance gracieuse. C'est lui qui prend l'initiative et c'est lui qui prend en charge toutes les conditions. Une alliance inconditionnelle avec Noé. Regardez encore un aspect de la grâce de Dieu que nous avons déjà vu en fait en Genèse 2. En Genèse 2, et on est au verset 21. Dieu dit, « Prends de tout ce qui se mange et fais-t'en des provisions, cela te servira de nourriture ainsi qu'aux animaux. » Bien sûr, Noé, c'est à Noé d'être responsable, de rassembler. Mais ok, on fait des courses pour combien de temps là ? Ça va durer combien de temps exactement ? Qu'est-ce que mange un bœuf, un mammouth, une chèvre ? Combien je dois prévoir ? Quel genre de nourriture ? Combien il y a de personnes à table ce soir ? C'est la question de la femme de Noé peut-être. Tout ce que Noé avait, en réalité, même si c'est lui qui le rassemble, c'est parce que Dieu donne, n'est-ce pas ? Et si nous avons de quoi nous nourrir, c'est parce que Dieu nous donne. Bien sûr, on travaille, bien sûr, on a travaillé pour ça, on a une retraite, etc. Mais c'est Dieu, souverainement, qui nous donne. Donc Noé choisit de soumettre sa volonté, son intelligence, ses émotions, ses forces à ce que Dieu dit. Et en cela, il fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné, verset 22. Quelques applications pour cette deuxième partie. Si nous renonçons à vivre dans la sagesse du serpent, mais plutôt à chercher la sagesse de Dieu en soumettant nos pensées, nos raisonnements à l'Évangile, c'est cela que Dieu attend de nous, n'est-ce pas ? Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul essaye de faire ça avec ceux qui se moquent de Dieu ou avec les gens dans l'Église qui dévient de l'Évangile. Il cherche à abattre tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et à faire prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. C'est une vie à contre-courant. Une vie normale, Noé avait une vie normale, c'était un être humain normal, il se levait, il se couchait, il mangeait, il construisait, voilà. Et en même temps, elle va paraître folle aux yeux de ceux qui nous entourent et qui refusent de revenir à Dieu. Sommes-nous prêts à assumer le style de vie de Noé, quoi qu'il en coûte, et faire exactement tout ce que Dieu nous a ordonné, même quand ceux autour de nous vont venir et nous dire « Mais qu'est-ce que tu construis là, dans ta vie ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'embêtes à suivre Dieu ? Mais t'es complètement barjot, mon petit, ma petite. » Noé a sans doute entendu ces critiques-là, mais il persévère. C'est ma dernière partie, versets 1 à 5 du chapitre 7. Noé persévère en mettant toute sa confiance en Dieu. C'est après la repentance, la foi, n'est-ce pas ? Noé met sa confiance en Dieu jusqu'au bout. Il fait preuve d'une foi qui persiste, qui persévère jusqu'à son aboutissement. Il n'y a pas de demi-tour en cours de route. Il ne fait pas juste un bout de chemin et puis après on verra bien. Je commence à construire l'arche et puis chaque jour je remets en cause, est-ce que ça vaut la peine de mettre une planche en plus ou finalement ça, c'est trop fou. Noé fait preuve d'une foi authentique. Il va jusqu'au bout, il persévère dans sa foi. Rappelez-vous la parabole du semeur qu'on a vue dans Marc. Quelques-uns ont la foi pour un temps, mais dès que surviennent les difficultés, les persécutions ou l'envie de se conformer au monde, cette foi sans racine, elle meurt, elle disparaît. Et ça produit aucun fruit. La plante meurt. Et sans doute que Noé n'était pas super à l'aise. C'est pas que c'était facile pour lui. Noé devait avoir peur. Mais regardez comment Dieu l'amène de la peur et le ramène à la foi. Il l'encourage. Dieu encourage. Noé a construit un bateau tel que personne n'en avait construit à son époque. Lui, il a suivi les instructions de Dieu. Il a rassemblé des provisions, celles que Dieu lui a permises de prendre. Des provisions en abondance. Les animaux sont tous là aux abords. Mais imaginez que Noé n'entre pas dans l'arche maintenant. Tout est prêt, tout est là, mais il n'entre pas dans l'arche. Imaginez les doutes, oh, la peur. Est-ce que ce bateau flotte ? Moi, je ne suis pas ingénieur, j'ai suivi les instructions de Dieu. Est-ce que ça flotte ? On n'a jamais vu ça. Un bateau de cette taille-là flotter ? Est-ce que ce bateau... Est-ce qu'on ne va pas mourir de faim ? C'est bien beau de rentrer dans l'arche, mais est-ce qu'on aura assez de provisions ? La terre ferme a l'air si solide, si inébranlable. On n'a jamais entendu parler d'un tel cataclysme comme le déluge. Est-ce que ça va vraiment arriver ? Dieu ferait-il vraiment cela ? Et vous voyez comment Dieu encourage Noé ? Chapitre 7, verset 1. Le Seigneur dit à Noé, entre ! D'accord, il l'encourage. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. D'accord ? Ce qu'on a vu avant, c'était le constat de l'auteur. Noé n'était pas forcément au courant de où est-ce qu'il s'est situé. Mais maintenant, Dieu vient et lui dit d'une parole claire, « Tu es juste, aie confiance, je t'accepte. » Et de nouveau, Dieu encourage toujours ceux qui ont la foi, qui marchent avec lui. Peut-être pas toujours au moment que nous on choisirait, peut-être pas aussi souvent, peut-être que nous on aimerait, quoique il faut se poser la question, est-ce qu'on entend bien les encouragements de Dieu ? Est-ce qu'on est bien... On a le regard lucide sur les encouragements que Dieu nous donne. Mais dans un sens, Dieu attend de nous une obéissance simple. Et donc quand on obéit, on fait les choses. S'il l'a dit, il l'a dit. Mais régulièrement quand même, malgré ça, il nous encourage. Il nous donne des bonnes paroles qui nous encouragent. Dieu dit à Noé, j'ai vu que tu es quelqu'un de juste. Et nous aussi, n'est-ce pas ? Nous avons le témoignage de l'Esprit Saint en nous qui dit « Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu m'appartiens, n'aie pas peur, tu fais partie de ma famille. » Et il était temps d'avoir cet encouragement parce que de 120 ans annoncés par Dieu, le délai avant que le jugement tombe, il ne reste maintenant que 7 jours. 7 jours ! Il est temps d'entrer dans l'arche. Et la foi de Noé va jusqu'au bout. Elle est totale, elle est radicale, elle persévère. Et en cela, verset 5, Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné.
Il avait 600 ans.
Ouais, exactement. Et on voit que c'est le dernier jour qu'il rentre dans l'arche. Hein ? Peut-être qu'il a eu des doutes jusqu'au bout. Ça nous rassure, il est de la même nature que nous, n'est-ce pas, ce Noé ? Même avec l'encouragement du Seigneur. Je voudrais faire quelques applications sur cette troisième partie et puis conclure. Et si vous me permettez, j'aimerais m'adresser aux personnes âgées de l'Église. Parce que statistiquement, d'accord, et je ne suis pas en train de souhaiter que ça arrive vite, mais c'est juste, d'accord, la réalité, statistiquement. Il reste peu de temps à vivre. Et Dieu, je crois, par ce passage ce matin, vous encourage. Tenez bon, persévérez jusqu'au bout. Ayez la foi même au moment où il faudra entrer dans l'arche, même où il faudra, ce sera critique d'être caché en Jésus-Christ, d'accord, pour nous qui sommes de la nouvelle alliance. Mais Dieu, par son esprit, n'est-ce pas, témoigne dans nos cœurs. C'est bien, tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur, même à l'approche du jugement, même à l'approche de la mort, tu vas être caché en Jésus-Christ. Et si vous faites ça, nous qui sommes plus jeunes, on veut se réjouir et voir comment Dieu vous porte dans cette période-là de votre vie et être encouragés nous-mêmes à avoir cette même persévérance dans la foi jusqu'au bout, radicale, totale, comme vous avez eu jusqu'à maintenant. Et on sera bénis ensemble par cela. Et maintenant, je m'adresse aussi à nous tous. Parce que Noé avait une foi qui interpellait les autres. Une foi qu'il a partagée avec les autres. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, Pierre est en train de dire ceci. « Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. » Il est en train d'annoncer que oui, il y aura aussi un nouveau jugement. Mais verset 5, « Il a néanmoins protégé Noé qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. » Et Noé était en train d'interpeller ses contemporains à mener une vie juste, dans la jeunesse ou dans la vieillesse, en manifestant la repentance et la foi, une foi qui persévère, totale, radicale, jusqu'au bout, même quand toutes les circonstances semblent dire qu'il faudrait faire demi-tour. Non, on croit dans une obéissance simple à Jésus, à Dieu, à ses paroles. On va faire qu'on va interpeller ceux qui sont autour de nous. Je conclue avec ces mots. Jésus, parce que c'est à lui qu'on regarde maintenant, Jésus a obéi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il s'est soumis à la volonté de son Père. Même à l'heure la plus terrible, il s'incline et il dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux obéir simplement à ce que tu me dis, même face à la mort. » Et sur la croix, il exprime sa foi encore en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'abandon total à Dieu dans la confiance. Vous savez, et vous, si vous ne savez pas, lisez le reste de la Bible. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons être déclarés justes comme Noé. Marcher avec Dieu, aller et venir dans notre vie avec lui, être de nouveau en communion avec Dieu, échapper au jugement. Et comme Noé, comme on va le voir plus tard, arriver dans un monde recréer un monde nouveau. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir comment cela va arriver.